Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Ça ne fait aucun doute que l'iPad est un vrai ordinateur et tout, mais Apple ne donnait pas le bon exemple en refusant obstinément d'offrir à ses tablettes des logiciels pro comme Logic et Final Cut. On a attendu longtemps, sûrement trop longtemps, mais cette fois c'est la bonne. Les deux apps sont maintenant disponibles et pour l'occasion, Apple a mis les petits plats dans les grands. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Stéphane sur la tendance très visible ces derniers mois des gros rabais sur l'iPhone. Pas la peine de se précipiter sur l'Apple Store pour acheter plein pot le dernier iPhone à la mode, il suffit maintenant d'attendre un mois ou deux pour faire de belles économies. Nous sommes le mercredi 24 mai, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. C'est peu dire que ces deux logiciels étaient attendus au tournant, et même si Apple a pris son temps, probablement trop d'ailleurs, c'est difficile de bouder son plaisir. Final Cut Pro et Logic Pro sont enfin disponibles sur iPad. Attention, pas sur tous les modèles. Logic réclame une puce A12 au minimum, et pour Final Cut, il faut carrément une puce M1. Et c'est vrai que le coût de l'abonnement à 5€ par mois pour chaque application, bah ça peut faire râler. En même temps, c'est moins cher pour tester et se faire la main, ce d'autant qu'il y a un mois gratuit. On peut aussi saluer le boulot d'Apple pour l'interface, qu'on peut évidemment contrôler avec les doigts, mais aussi avec le pencil, un clavier ou un trackpad. De ce qu'on a pu en voir jusqu'à maintenant, tout est à peu près logique et sensé. Les utilisateurs des versions Mac devraient sans trop de mal retrouver leur marque. Alors évidemment, il y a des différences et pas uniquement esthétiques entre les versions iPad et Mac. Les deux logiciels pour macOS sont les plus complets, mais on a quand même le sentiment de ne pas se retrouver devant des versions améliorées d'iMovie et de GarageBand. Ces deux nouvelles applications ne s'adressent pas vraiment aux utilisateurs capés de Logic et de Final Cut sur Mac, mais plutôt aux créateurs de contenu qui veulent aller bien au-delà des capacités des outils grand public. Est-ce que la sauce va prendre et surtout, est-ce que ces deux logiciels permettront à l'iPad de gagner enfin ses lettres de noblesse pro, on verra bien dans quelques mois. Photoshop se met à l'heure de l'intelligence artificielle générative. Alors, il ne s'agit pas de générer des images à partir de rien, mais d'ajouter des éléments à une photo, comme par exemple un jetpack sur le dos d'une abeille, parce que, bah, pourquoi pas. Cette intelligence artificielle, baptisée Firefly, est disponible en bêta dans Photoshop. Elle fonctionne un peu comme ChatGPT, en fait. Après avoir sélectionné le sujet dans la photo, il faut cliquer sur le nouvel outil de remplissage génératif, puis décrire tout simplement le changement désiré. Les ajouts prennent en compte l'éclairage, la perspective et même le style général de la photo d'origine. L'avantage de Firefly par rapport à Midjourney ou Stable Diffusion, c'est que le modèle de Photoshop a été entraîné avec des images pour lesquelles Adobe a des droits d'exploitation. De fait, on s'évite les gros problèmes de droits d'auteur et les images créées avec Firefly peuvent être utilisées pour un usage commercial. On ne patauge donc pas dans la zone grise des autres outils de génération d'images. Plus besoin de s'embarrasser d'un capteur de lecture d'empreintes digitales ou de fréquences cardiaques. Avec ce nouvel écran développé par Samsung, il suffit de poser un doigt sur la dalle n'importe où pour déverrouiller le smartphone, mesurer la pression artérielle ou calculer le rythme de votre palpitant. Le Samsung Sensor Display est un écran OLED qui observe les variations de la lumière créée par la présence des doigts. Pour ces petits calculs, la dalle s'intéresse en particulier à la contraction des vaisseaux sanguins. Samsung précise aussi que pour la pression artérielle, il faudra poser un doigt de chaque bras sur l'écran. Alors pour le moment, il s'agit surtout d'une preuve de concept, Samsung n'ayant pas annoncé de commercialisation pour cet écran. Et puis, il manque encore pas mal de détails, comme par exemple le temps nécessaire à l'écran pour réaliser ses relevés biométriques. Mais cette technologie a de quoi intéresser pas mal de constructeurs, Apple en tête, qui cherchent tous à réduire le nombre de composants dans leur smartphone pour les rendre plus fins et plus légers. Le chiffre du jour, c'est beaucoup. Beaucoup, comme le nombre de milliards de dollars qu'Apple va investir avec Broadcom pour le développement et la production de composants 5G aux États-Unis. L'annonce a un petit parfum politique, Apple souhaitant visiblement montrer qu'elle participe pleinement à l'économie américaine. De manière beaucoup plus pragmatique, il pourrait simplement s'agir du renouvellement du contrat passé en 2020 avec le même Broadcom. L'accord portait à l'époque sur 15 milliards de dollars de composants réseau. Mais ce nouveau partenariat sur plusieurs années pose aussi des des questions sur le projet d'Apple qui veut concevoir son propre modem 5G. La rumeur indique que le constructeur aurait pris pas mal de retard parce que c'est très compliqué de développer une puce réseau même quand on s'appelle Apple. Du coup, est-ce que Broadcom va donner un gros coup de main pour accélérer et finaliser ce projet, à moins qu'Apple soit sur le point de terminer le développement de cette puce et que maintenant il faut lancer le début de la production des différents composants. Dans un cas comme dans l'autre, Broadcom fera partie de l'avenir d'Apple dans le domaine des communications réseau. Il fut un temps pas si lointain où les iPhones ne perdaient quasiment pas de valeur au fil du temps, au moins durant la première année de leur commercialisation. Autant dire qu'on pouvait sans trop de problèmes financer l'achat d'un nouveau modèle en revendant l'iPhone acheté l'année précédente. On n'est plus du tout dans ce cas de figure désormais. Les iPhones de la génération actuelle peuvent maintenant se trouver avec de jolis rabais. Avec Stéphane, on va faire le point sur cette tendance de fond très intéressante pour notre porte-monnaie. Salut Stéphane!
Salut Mickaël, salut à tous.
En septembre dernier, on s'est tous pris un coup sur la tête en découvrant les prix des iPhone 14. En fait, au sein de la nouvelle gamme, aucun modèle n'est à moins de 1000 euros.
Oui, on s'est même pris deux coups sur la tête. D'une part, il y a eu l'augmentation du prix des nouveaux iPhones. Donc les tarifs ont augmenté de 110 à 290 euros quand même, selon les modèles. Alors par exemple, l'iPhone 14 coûte 110 euros de plus que l'iPhone 13 lors de son lancement. Ouais. Et puis comme cette année il n'y a pas d'iPhone 14 mini, un peu moins cher à l'entrée de gamme, ça fait que la gamme d'iPhone 14 démarre à plus de 1000 euros, donc ça fait 1019 euros pour être précis. Ouais. Et le deuxième coup sur la tête, c'est que les prix des anciennes générations n'ont pas baissé. Et c'est la première fois que ça arrive. Donc encore aujourd'hui, l'iPhone 13 coûte 909 euros, comme à son lancement en septembre 2021. Ouais. Il y a pire encore, c'est le prix de l'iPhone SE qui a augmenté de 30 euros. Alors déjà qu'il n'était pas très très intéressant à la base, il n'y a vraiment pas de bonne raison de l'acheter aujourd'hui. Et ces augmentations ne viennent pas de nulle part. Il y a eu l'inflation qui a touché Apple, puis les fluctuations monétaires. En septembre, le dollar était à parité avec l'euro. Mais même en prenant ça en compte, les iPhones coûtent quand même plus cher en Europe qu'aux États-Unis, parce que là-bas, les prix n'ont pas augmenté. Apple n'a pas fait d'effort, on va dire, en France, malheureusement.
Évidemment, le coup a été rude, mais assez rapidement, on a vu apparaître des promotions qui ont d'abord porté sur l'iPhone 14.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il faut dire que ça fait quand même quelques années maintenant que les promos sur les iPhones ne sont plus rares. Ouais. En gros, c'est depuis qu'Apple a passé un accord de distribution avec Amazon en 2018 que les promos sont devenues courantes. Il y a une concurrence assez vive entre les revendeurs. Donc concernant l'iPhone 14, deux mois après son lancement, il est passé à 889 euros sur Amazon Italie, mais on peut commander très facilement depuis Amazon Italie. Donc c'était 140 euros de moins que le tarif pratiqué par Apple. Ouais. Et c'était aussi 20 euros de moins que l'iPhone 13. Donc là, pour le coup, à partir de ce moment-là, l'iPhone 14 est devenu plus intéressant que l'iPhone 13.
Ben oui.
Et l'iPhone 14 Plus a vu lui aussi son tarif chuter assez rapidement. Donc il était vendu 1169 euros au départ. Et il est vite passé autour des 1000 euros chez les revendeurs. Donc cette baisse, c'est le signe que ces deux modèles ont moins bien marché auprès des consommateurs que ce qu'Apple espérait.
Ouais.
Le 14 Plus, c'est pas un mauvais modèle, loin de là, mais c'est vrai que quand tu as un budget supérieur à 1000 euros, tu peux te dire que autant mettre encore un petit peu plus pour avoir un iPhone Pro qui est quand même beaucoup mieux équipé. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire sur le 14 et 14 Plus.
Oui. Pour les iPhone 14 Pro et Pro Max, les premières promos vraiment intéressantes ont été lancées un peu plus tard, mais maintenant c'est bon, on peut gratter assez facilement plus de 200 euros et même bien plus, et ce pour toutes les couleurs et pour tous les stockages.
Oui, les iPhone Pro et Pro Max sont toujours des promos plus tardives parce que ce sont les modèles qui sont les plus demandés au départ. Donc il a fallu attendre à peu près février-mars pour voir les premières remises significatives. Mais même avec ces premières remises, les 14 Pro et Pro Max sont restés plus chers que leurs prédécesseurs, puisqu'ils partaient de plus haut. Et finalement, en ce moment, avec il y a des remises d'environ 15%, ça fait que le prix de l'iPhone 14 Pro est à peu près le même que celui du 13 Pro il y a un an.
Ouais.
Donc ouais. Les promos sont intéressantes, mais bon, en fait, tu reviens sur un prix qui était celui d'il y a un an, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit, toutes ces promos par rapport à l'iPhone ? Est-ce que finalement, un iPhone, c'est devenu un smartphone Android comme un autre ?
Alors, ça nous dit déjà qu'on peut faire des économies simplement voilà. En se montrant patient. Ce qui est pas mal, hein. Parce que dernièrement, pour prendre encore un autre exemple, il y a eu une réduction de 35% sur l'iPhone 14 Plus. Donc, oui. C'est quand même assez exceptionnel. Ça faisait 500 euros d'économie. Ouais. C'était sur le modèle 512 Go. Donc ça, c'était vraiment un bon plan. Mais quelques minutes après la publication de l'actu, il y avait déjà plus de stock. Bon, c'est pas très étonnant. Mais de manière plus courante, on voit depuis quelques années qu'on peut espérer une remise de 100 euros, voire de 200 euros à peu près 6 mois après le lancement des nouveaux iPhones. Après, toutes les remises dont je parle là, en fait, on ne les trouve pas sur l'Apple Store. Il faut se rendre sur Amazon, à la Fnac ou sur ce Cdiscount ou autre pour trouver ces réductions. Et ça, c'est une des choses qui différencie vraiment Apple des fabricants Android. Parce que de leur côté, les fabricants Android, comme Google, fait actuellement une remise de 100 euros sur le Pixel Pro, 7 Pro, sur son propre site. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur l'Apple Store. Et une autre différence importante entre Apple et les fabricants Android, ce sont les offres de lancement. Parce que pour le lancement de leur téléphone phare, Oppo, Samsung et les autres font à chaque fois des réductions importantes ou des cadeaux. Pour reprendre l'exemple de Google, si tu précommandais un Pixel 7, tu pouvais avoir des écouteurs ou une montre.
Oui.
Et donc pour l'instant, Apple n'est jamais allé aussi loin, mais on voit quand même qu'elle s'en rapproche petit à petit. Oui. Parce que maintenant que tout le monde a un smartphone, on voit bien qu'Apple doit jouer sur les prix pour rester compétitif. Et donc il y a plusieurs tabous qui sont déjà tombés, comme les promotions anticipées. On a vu sur Amazon dernièrement une remise sur l'iPhone 14 jaune, alors qu'il n'était même pas encore en vente.
Ah oui.
Et on a vu aussi un pack, c'était iPhone 14 plus AirPods 2 pendant le Black Friday sur Cdiscount.
Ah oui.
Donc on voit qu'en fait, pour éviter d'écorner son image premium, Apple compte pas mal sur les revendeurs pour jouer sur les prix.
Alors, je vais te demander d'endosser tes habits de Madame Irma. qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal comme baisse de prix possible pour l'iPhone 15 ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui pourraient faire pencher la balance vers une baisse des prix, ouais. Comme l'inflation qui est moins forte, le taux de change entre le dollar et l'euro qui n'est plus le même qu'en septembre dernier. Mais en même temps, c'est pas vraiment la direction qui est prise par Apple. Parce qu'on voit bien ces dernières années que la stratégie d'Apple, c'est de se dire, bon, ok, on ne peut plus vendre autant d'iPhone que par le passé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va les vendre plus cher. Et jusqu'à présent, ça lui réussit pas mal. Donc il faut voir jusqu'à quel point elle peut pousser ça. Et puis, vu les rumeurs d'iPhone 15 Pro Max ou Ultra qui se différencieraient encore plus, j'ai plutôt tendance à penser que le prix risque d'augmenter encore. Désolé pour vos espoirs. Enfin, je peux me tromper, hein, mais on verra ça en septembre.
Eh bien, on va quand même croiser les doigts pour l'iPhone 15. Rendez-vous donc à la rentrée pour la douloureuse. Merci pour cette plongée dans les promos. Bien sûr, on va continuer à vous les signaler sur e-génération. Salut Stéphane.
Salut Mickaël.
Et merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très bientôt pour de futures aventures.